fais un peu le ménage, beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faut être fier de nos enfants. Vous savez que notre papa dans le ciel est fier de nous, hein ? Et il est surtout fier de son fils qui a fait le job, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés et qui a fait de nous ses fils et ses filles. La semaine dernière, David nous a rappelé des « il faut ». Il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui commencent par « il faut ». Vous vous en souvenez ? « Il faut que vous naissiez de nouveau », Jean 3,16. « Le Père cherche des adorateurs en esprit. Il faut que vous adoriez le Père en esprit et en vérité », dit-il à la femme samaritaine. « Il faut qu'il croisse », disait Jean-Baptiste à propos de Jésus, « et que je diminue ». Et ainsi de suite. Et moi, j'aimerais ajouter à ces « il faut », non pas un « il faut », mais ça pourrait se transformer en un « il faut ». On a chanté pas mal, on a dit nos vœux, nos souhaits, notre désir d'être avec Jésus, d'être un avec lui, qu'il règne en nous. Mais comment c'est possible? Comment peut-il régner en nous? Comment faire en sorte que ça ne soit pas un vœu pieux? La nouvelle année, c'est souvent l'occasion de faire des vœux, et puis c'est des vœux qui font plouf, qui font... Ce sont des vœux pieux qui ne mènent à rien. Eh bien, je vais vous donner un secret qui se trouve dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, si on pouvait l'afficher, au chapitre 15. C'est Jésus qui parle et il nous donne le secret de comment vivre tous ces « il faut ». Il faut. Dans Jean, au chapitre 15, versets 1 à 12, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Jean 15, versets 1 à 12, oui. « Je suis le vrai cep ou la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc pour vivre les « il faut que vous naissiez de nouveau, il faut qu'il règne en moi », le secret c'est qu'il faut demeurer en lui, il faut demeurer en Christ. Et Jésus Il utilise le verbe demeurer 10 fois dans ces versets. Sa façon à lui d'insister. Il prend une image. Jésus aime beaucoup les images. Une métaphore. C'est même plus qu'une image végétale. C'est même une parabole. Parce qu'il prend l'image d'un arbre. Bon, ici, c'est une vigne. On pourrait prendre l'image d'un arbre. Moi, j'aime bien tout ce qui est végétal. C'est mon côté jardinier. C'est quoi ? Il y a 3 choses. Trois éléments dans cette parabole. Il y a d'abord le vigneron. C'est le créateur. C'est Dieu. C'est lui qui décide de planter telle vigne ici, telle autre là, tel arbre là, tel autre et tel arbre là-bas. Il y a ensuite le cep ou le tronc. Voilà. Ça, c'est Jésus. Jésus, il est celui qui a planté, qui a été planté, qui s'est incarné. Et puis, troisièmement, il y a les branches, les sarments. Et ça, c'est nous. Le vigneron, ça, c'est Dieu, le Créateur. Le cep, ou le tronc, ça, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et les sarments et les branches, c'est nous. Rien de plus simple, rien de plus facile à comprendre. Une image. Et ces 3 choses sont intimement liées. La relation entre le cep et le sarment, c'est une relation vivante. On parle d'arbre. Hein? On parle d'arbre. C'est une relation vivante. Et Muret, dans son livre, dit ceci. La relation entre le cep et le sarment est une relation vivante. Notre relation avec le Jésus, c'est une relation vivante. Aucune union externe, temporaire, ne saurait suffire. Aucune intervention humaine ne pourrait la réaliser. La branche, qu'il s'agisse d'une branche naturelle ou d'une branche greffée, ne tient au cep que par la volonté même du Créateur, du vigneron. En vertu de quoi la vie, la sève, la graisse, la fécondité du cep se communiquent au sarment. Et il en est exactement de même avec le croyant. Son union avec le Seigneur ne résulte pas de la sagesse ou de la volonté humaine, mais c'est une action divine. Par elle s'effectue l'union vivante la plus étroite et la plus complète qui soit entre le pécheur que nous sommes et le Fils de Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, Galates 4, verset 6. Le même Esprit qui habitait et habite encore dans le Fils devient la vie même du croyant. Dans l'unité de ce même esprit et la communion de cette même vie qui est en Christ, le croyant est un avec lui. Comme pour le cep et les sarments, c'est par une union vivante qu'ils sont un. Et la parabole nous enseigne que cette union est complète. L'union entre le cep et le sarment est si étroite que chacun d'eux n'est rien sans l'autre, et que chacun est tout pour l'autre et seulement pour lui. Hein, c'est une relation exclusive. Sans le cep, le sarment ne peut rien faire. Sans le cep, le sarment ne peut rien faire. Il doit au cep son droit d'exister dans la vigne, sa vie et sa fécondité. D'ailleurs, le Seigneur lui-même le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 5. Et si le croyant peut chaque jour être agréable à Dieu, ce n'est qu'au travers de la puissance de Christ demeurant en lui. La sève vivifiante du Saint-Esprit coulant en lui jour après jour. Telle, c'est la seule possibilité de porter du fruit. Il ne vit qu'en lui et dépend à chaque moment de lui seul. Ce qui est remarquable aussi, c'est vrai que les sarments dépendent du cep. Nous dépendons du Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dépendants de lui. Mais en même temps, sans les sarments, le cep ne peut rien non plus. Le cep sans sarment ne peut porter du fruit. Le sarment n'est pas moins indispensable au cep que le cep au sarment. Telle est la merveilleuse condescendance de la grâce. Tout comme le peuple de Dieu est dépendant de lui, il a voulu se rendre dépendant de son peuple. Sans ses disciples, il ne peut répandre sa bénédiction sur le monde. Moi, j'aime dire aux gens pour qui je prie, nous, Église, nous, croyants, nous sommes les yeux, nous sommes les mains de Jésus. Il ne peut pas offrir au Créateur les raisins de la Canaan céleste. Ne nous demandons pas pourquoi. C'est lui qui en a décidé ainsi. Dieu, c'est vrai, aurait pu se passer de nous. Il n'y a pas besoin de nous. Eh bien, il en a décidé ainsi et il a appelé ses rachetés à ce grand honneur. Comme il leur est indispensable dans le ciel afin qu'ils puissent porter du fruit, eux aussi lui sont indispensables sur terre afin qu'au travers d'eux, il y ait du fruit. Jean-Michel disait tout à l'heure, le ciel c'est beau, mais un ciel vide, c'est pas beau. Le Seigneur veut nous élever et nous amener dans son ciel, c'est son désir, qu'on soit avec lui. Jésus dit, j'ai voulu être avec vous, j'ai voulu que vous soyez avec moi, et je vous prépare une place. Et c'est le désir de Dieu de remplir son ciel de ses croyants, de ses enfants, de cette humanité qu'il aime, cette humanité certes déchue, cette humanité qui a péché, cette humanité qui mérite la mort, mais que Dieu aime et ne peut pas se résoudre à la voir se perdre. Et il désire, c'est son désir, c'est le désir de Dieu. On parlait tout à l'heure de mon désir, mais quel est le désir de Dieu? Le désir de Dieu n'a pas changé, il est le même, il n'a pas varié. Que désire-t-il? Il désire que tout homme, toute femme parvienne à la connaissance du salut, soit sauvé. C'est le désir de Dieu et ce désir n'a pas varié. Et vous êtes le fruit de ce désir, vous êtes la réalisation de ce désir. Et son désir, c'est qu'au travers de vous, il y en ait d'autres pour peupler ce ciel. Jésus est venu pour arracher les gens de l'enfer, pour dépouiller l'enfer et remplir le ciel. C'est le désir de Dieu. Et toute cette parabole du cep, des sarments, ne nous dit pas autre chose. Je parlais tout à l'heure des fruits, mais le Seigneur veut que nous soyons pleins de fruits pour remplir le ciel de ses fruits. Et il passe par nous, c'est le miracle, c'est le mystère. Il pourrait se passer de nous, il pourrait envoyer des anges, faire le travail tout seul. Et non, il passe par nous, il passe par toi, il passe par toi, il passe par toi. Oui, toi aussi, et puis toi, il passe par nous. Mystère, grâce. Croyant, méditez sur ce point jusqu'à ce que vos âmes se prosternent dans l'adoration devant ce mystère de l'union parfaite entre Christ et le croyant. Voilà, nous ne pouvons rien sans lui, mais lui ne peut rien sans nous. C'est son dessein, c'est sa décision. Il en a décidé ainsi et il a appelé ses rachetés à ce grand honneur. Vous sentez-vous honoré? Moi, je me sens honoré. Je me sens honoré d'avoir un Dieu qui descend vers moi et qui me dit oui, je vais t'utiliser aujourd'hui par tes paroles, par tes prières, par tes sourires, par ton intercession, je vais utiliser et me glorifier par ce fruit qui va passer au travers de toi. Je disais la semaine dernière, nous avons fait un petit jeu en famille pour la nouvelle année. Nous avons mis nos prénoms dans une corbeille. Et puis, nous devions tirer un prénom pas le nôtre, mais de quelqu'un qui était autour de la table, et puis demander au Seigneur d'encourager cette personne, on ne la connaît pas, et de demander au Seigneur une parole, un encouragement pour cette personne. Et il se trouve qu'après, on découvre le nom et puis on découvre ce qu'on a reçu pour cette personne. Et il se trouve que pour chaque personne, ça collait. C'était vraiment quelque chose de pertinent, de vrai, qui venait de la part du Seigneur. Et moi, j'étais encouragé par ma fille, Sophie, qui, sans le savoir, a pensé à ce nom. Et elle a dessiné ce petit croquis magnifique. C'est un paysage, et au milieu de ce paysage, il y a un arbre, là encore une image végétale, il y a un arbre, et de cet arbre, eh bien, monte vers le ciel plein de petits cœurs, plein de petits cœurs, plein de petits cœurs, plein de petits cœurs, et tous ces petits cœurs font un grand cœur, et ça fait une boucle comme ça, et ça commence de l'arbre, ça va vers le ciel, et ça descend vers l'arbre, ça fait une boucle, et moi ça m'a beaucoup parlé, c'est comme si le Seigneur te disait, ben voilà, de tout, cet arbre c'est toi Daniel, et de cet arbre je veux qu'il monte un fruit, une odeur, un parfum, et ce fruit c'est des cœurs, c'est des prières, c'est une intercession, c'est une action, c'est tout ce qui va monter de toi pour les autres et qui va monter au ciel, et aussi de ce ciel va descendre d'autres cœurs, c'est-à-dire que moi j'ai Dieu, j'ai pour toi, j'ai à cœur de te partager mon cœur et de te dire, voilà, il y a telle et telle personne que j'aimerais, que pour qui tu sois une bénédiction. Et ça va descendre vers cet arbre et tu vas porter ce fruit et tu auras à cœur ces personnes. Bien aimé, c'est pour vous aussi ça. C'est ça le miracle de la vie. C'est ça le miracle du Seigneur. C'est que le Seigneur veut avec nous créer cette union. Et je reviens à cette image du cep. Le tronc et les sarments, c'est ni plus ni moins que cela. Le Seigneur choisit ce moyen-là pour se glorifier. C'est une relation vivante. Cultivons cette relation vivante. Demeurer en Christ, c'est une relation vivante. C'est une relation vivante. Cultivons cette relation. Nourrissons-la. Venons au pied du Seigneur. Cherchons-le. Cultivons cette relation. Vous savez, en amitié, on dit toujours, une amitié, ça s'entretient. Si vous avez quelqu'un, et puis que vous aimez bien, et puis que vous n'allez jamais le voir, vous prenez jamais de ses nouvelles, vous lui téléphonez jamais, vous lui envoyez jamais un texto, est-ce que vous êtes encore son ami? Il serait en droit de se dire, mais attends... C'est combien de temps que je n'ai pas de tes nouvelles? C'est combien de temps que tu ne prends pas de mes nouvelles? Tu te dis être mon ami et... Quel est cet ami? Prenons le temps. Prenons le temps de passer du temps avec notre Seigneur. C'est une relation vivante. Entretenons-la. C'est une relation aussi pérenne qui dure. H24, 7 jours sur 7, Jésus dit qu'il y a des moments particuliers qu'on doit ménager avec le Seigneur. Ta chambre, va dans ta chambre, ferme la porte, là prie ton Père et dans le secret il te le rendra. Il y a ces moments particuliers qu'il faut cultiver, qu'il faut entretenir. Mais on peut être constamment en relation avec lui, constamment, même en dormant. Même en travaillant, même en marchant, même en faisant la cuisine. C'est le désir du Seigneur. Il le dit 10 fois. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous pouvez demeurer dans la présence de Dieu, mais H24, 7 jours sur 7. C'est le désir de Dieu. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ton désir? Moi, j'aime beaucoup cette image de l'arbre, parce que l'arbre, c'est à la fois quelque chose de statique et quelque chose de dynamique. Un arbre, il ne bouge pas, il est là, il ne fait rien, il est là, il ne bouge pas. Et pourtant, il y a une vie extraordinaire, il y a la sève qui monte, il y a la croissance, et saison après saison, cet arbre change, il grandit, Il en floraison, après il porte des fleurs, et puis après des fruits, si c'est un arbre fruitier. Et nous sommes cet arbre, nous sommes les branches de cet arbre. C'est une relation qui est dépendante ou interdépendante. Je lisais tout à l'heure, le Seigneur vous dit, te dit, mais sans moi, tu ne peux rien faire. Sollicite-moi. Et vous savez, on peut solliciter le Seigneur pour tout. Pour tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun sujet qui n'intéresse pas le Seigneur. Même les petits problèmes de ton chat intéressent le Seigneur. Tu peux prier pour ton chat ou pour ton voisin. Il n'y a pas de petits problèmes qui n'intéressent pas le Seigneur. Le Seigneur s'intéresse à tout. Il est le Seigneur, non ? Il règne et il s'intéresse à tout. Il n'y a pas de petits problèmes qui n'intéressent pas le Seigneur. C'est une relation dépendante, interdépendante. De même que le Fils dépend du Père, de même nous, nous dépendons du Fils. C'est une relation interdépendante. C'est une relation aussi exclusive. Le Seigneur nous dit, voilà, je veux que ma vie, elle passe au travers de toi. Au travers de toi. Cette vie qui va féconder cette branche et produire un fruit, c'est ce passage exclusif. Ce n'est pas la peine d'aller chercher d'autres sèves ailleurs. La sève se trouve dans le cep. C'est une relation exclusive, à l'exclusion de toute autre chose. Quand nous disons « Seigneur, règne en moi », je ne sais pas si nous mesurons la portée des paroles, « régner », ça veut dire... Il n'y a plus de place pour autre chose. Et c'est pour ça que Jésus dit dans cette parabole qu'il y a des choses qui doivent être coupées, retranchées, émondées. Moi qui suis jardinier, je sais que si je veux des tomates, eh bien il faut couper des gourmands. Les gourmands, c'est des feuilles qui ne donnent rien. Il faut couper les gourmands parce que ça pompe de la sève et puis ça empêche la sève de monter jusqu'à la tomate. Il y a des gourmands qui doivent être coupés. Dans nos vies, il y a des choses qui ne mènent à rien. Soyons honnêtes, il y a des choses qui doivent tomber. Alors, à vous de voir ce qui doit tomber, de ce qui doit être retranché, mais qui sont autant d'empêchements à la vie de Dieu en vous. Il y a, je crois, et nous sommes au début de l'année, des résolutions à prendre, des choix à faire sur ce que nous regardons, sur ce que nous écoutons, sur ce que nous faisons, sur nos emplois du temps, nos priorités, ce qui nous semble important, etc. Que chacun regarde et voit les choses qui doivent être retranchées. Et laissez le Seigneur lui-même retrancher ces choses. C'est une relation féconde. Et moi, je remarque, c'est que quand un arbre est correctement émondé, cet arbre donne encore plus de fruits et des gros fruits. Il y a des, moi, dans mon jardin, j'ai des pommiers, j'ai des poiriers. Ben, il y a des, parfois, quand il y a sur un arbre, vous avez trois petites pommes, quatre, mais il faut en enlever deux pour que le fruit soit plus gros, plus fort. C'est une relation féconde, porteuse de fruits. Et elle n'est possible que dans cette union entre le cep et le sarment. Et Jésus dit, beaucoup de fruits, pas un peu de fruits, mais beaucoup de fruits. Et ici, bien sûr, à quoi pense-t-il ? Il pense aux fruits du Saint-Esprit. Les neuf aspects du fruit du Saint-Esprit, la paix, la joie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, tout ce fruit qui naturellement découle de notre relation, de notre union avec le Seigneur, un fruit abondant. Ce sont aussi les dons du Saint-Esprit qui sont autant de fruits qui découlent de cette relation que nous avons avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit de rechercher, d'aspirer aux dons les meilleurs. Les ministères sont aussi ces fruits de l'Esprit. Le Seigneur donne ces fruits. Il donne ses dons. Pourquoi ? Pour l'édification du corps du Christ. aspirons à ces dons les meilleurs, recherchons les dons spirituels, produisons le fruit du Saint-Esprit. Vous savez, pour produire le fruit du Saint-Esprit, il n'y a pas grand-chose à faire. Un fruit, qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Il est juste là, connecté à la branche, et la sève coule et le fruit grandit. Par contre, les œuvres de la chair, il faut s'activer, il faut faire beaucoup de choses. Là, il faut être dans la relation avec le Seigneur et laisser le Seigneur faire, laisser faire le Seigneur, laisser le Seigneur travailler. Et c'est un fruit qui est abondant, parce que nous avons affaire à un Dieu qui est riche, pas un Dieu chiche, pas un Dieu radin. Le ciel, il est grand, il y a de la place pour tout le monde, pour toute cette humanité. Le Seigneur est abondant, le Seigneur est riche, il veut combler son Église de ses dons, de tous ses dons. C'est pour vous, c'est pour nous. C'est un fruit abondant. Et le verset 8 nous dit que mon Père est glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Le Seigneur est content. Quelle est votre image du Seigneur ce matin ? Quelle image avez-vous du Père céleste ? Quelqu'un qui vous regarde en fronçant les sourcils ? Quelqu'un qui vous pointe du doigt, quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui est sévère, quelqu'un qui est strict. Mais c'est tout le contraire. C'est un Dieu qui se réjouit, qui est content quand vous prospérez à tous égards, qui est content quand vous êtes heureux, quand vous avez réussi à triompher de telles tentations, qui est heureux quand vous avez réussi vos examens, qui est heureux quand vous progressez. Et qui est triste quand vous tombez, et qui est heureux quand vous vous relevez. Voilà ce Père céleste que nous avons, un Dieu plein d'amour. Parce que, et c'est le dernier point sur lequel j'aimerais insister, de quelle relation s'agit-il ? Il s'agit d'une relation d'amour. Une relation d'amour. Comme le Père, verset 9, m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Le Seigneur nous aime et a voulu que nous soyons dans son corps. Il nous a pris, il nous a greffés à lui, parce que nous sommes des pièces rapportées. Hein. Nous sommes des pièces rapportées. Il nous a greffés à lui, nous a unis à lui. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Il t'aime. Il nous aime d'un amour extraordinaire, d'un amour qui ne change pas. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Alors, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et si vous demeurez, et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Et puis, cerise sur le gâteau, cet amour, c'est un amour partagé. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voilà la cerise sur le gâteau. Tout ça pour ça. Tout ça pour que l'amour de Dieu soit visible et manifesté. Et cet amour, il est visible et manifesté quand nous nous aimons les uns les autres. Alors puisse notre amour, les uns pour les autres, grandir, s'approfondir. Que quand nous nous voyons, bien nous soyons heureux de nous voir. Que nous soyons contents. Je suis content de te voir aujourd'hui. C'est les chants qu'on chantait dans le temps. Je suis content de te voir aujourd'hui. Voilà. Voilà l'amour du Père manifesté dans le Fils au travers de son Esprit. Que nous soyons un avec lui. Un avec lui. Comme le sarment et un avec le cep. Que cet amour coule en nous, telle une sève, qu'elle produise le fruit. Et un des aspects du fruit, c'est l'amour. L'amour entre nous. Et c'est cet amour qui va demeurer. Vous savez, on pourra faire beaucoup de choses ici-bas. Beaucoup de choses. Mais au final, qu'est-ce qui va rester ? Trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de profondément relationnel. Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Et il nous a sauvés pour que nous soyons à nous-mêmes, à notre tour, des gens qui aiment. Seigneur, je te prie pour ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu nous aides dans notre quotidien à demeurer en toi. Ô Seigneur, fais-nous comprendre, Saint-Esprit, ce que ça veut dire que de demeurer en toi. Et toi en nous. Puissions-nous entrer dans ce repos intérieur et de nous connecter à toi. Nous sommes tellement promptes à nous connecter à un tas de choses, mais nous oublions souvent que la première des connexions, c'est d'être avec toi. Et c'est mon désir d'être connecté à toi aujourd'hui. Et je te prie que mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi ici soient eux-mêmes connectés à toi, qu'ils demeurent en toi. Pour que ce qui passe du Père à toi passe aussi à nous et que tu sois glorifié par ce fruit que nous allons porter, que nous portons déjà, et que tu sois glorifié, Seigneur. Nous te prions pour cette Église en ce début d'année. Tu nous connais tous, Seigneur, tu nous aimes. Tu sais ce que nous sommes, ce par quoi nous traversons. Tu connais aussi nos difficultés, nos galères, nos casseroles, tout ce qui est difficile, Seigneur. Mais tu nous regardes avec bienveillance. Merci, Seigneur, de nous regarder avec bienveillance, avec tendresse même, avec compassion. Et ton désir, Seigneur, c'est que nous demeurions en toi. Merci, merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire et merci d'aider chacun et chacune dans sa vie à demeurer en toi. Que ce ne soit pas simplement des mots, mais une réalité. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce en 2017 de demeurer en toi encore plus fort. Amen.